Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons ce matin d'échanges internationaux en pleine tourmente dans un contexte global de ralentissement de l'économie. Revenons bien sûr sur l'échec hier soir des négociations autour de l'accord commercial CETA entre le Canada et l'Union européenne, mais aussi sur d'autres actualités à nos yeux tout aussi importantes. Par exemple, la position des deux candidats à l'élection présidentielle américaine qui nous paraît en nette rupture avec l'ouverture traditionnellement pratiquée par ce grand pays, premier importateur mondial, ou bien ce sera pour début décembre la modification du statut de la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce. La Chine qui accède au statut d'économie de marché, avec quelles conséquences, c'est une question. Ou encore le climat général de repli observé dans de nombreux pays où l'on reparle fortement de protectionnisme et sans oublier les opinions, comportements des citoyens consommateurs, préoccupations environnementales et sanitaires en tête. Autant de raisons qui nous amènent à poser cette question. Le libre-échange est-il en perte de vitesse ? Et nous sommes heureux de recevoir Nathalie Coutinet, économiste à l'Université de Paris 13, chercheur au Centre d'économie de Paris Nord, membre également des économistes atterrés. Sébastien Jean, directeur du CPI, Centre de recherche d'expertise sur l'économie mondiale. Et Philippe Martin, professeur d'économie à Sciences Po. Et nous leur avons demandé à tous trois de venir avec un chiffre, celui qu'ils souhaitent, pris dans l'actualité, de préférence pas celle dont nous parlons sur notre sujet principal. C'est l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Libre-échange, donc courte définition, mais il semble que la plupart des économistes quand même estiment qu'il peut être source d'avantages. Certaines situations économiques particulières peuvent quand même justifier des pratiques protectionnistes. On va revenir sur tout cela. En gros, les avantages de l'échange, diversité des produits, économie d'échelle et le protectionnisme, à l'inverse, se propose de protéger des travailleurs, voire des entreprises nationales ou de limiter à certains secteurs. Les échanges, c'est tout cela dont il est question aujourd'hui avec cette première actualité quand même, une réaction et donc ces négociations entre le gouvernement wallon et la ministre canadienne du commerce international qui ont échoué hier soir. Les francophones de Belgique ont refusé de ratifier l'accord de libre-échange entre UE et Canada et la représentante canadienne est rentrée à Ottawa. Première réaction, Philippe Martin. C'est fini ?
Oh, je ne sais pas si c'est fini parce que ça va être très 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 long et il y aura d'autres péripéties certainement. Juste sur la question wallonne, il faut bien voir quand même qu'il y a des questions internes politiques belges qui sont pas sans importance puisqu'il y a un gouvernement socialiste wallon qui, je pense, avait intérêt ou envie, en tout cas, de poser problème au gouvernement plutôt de droite au niveau fédéral. Donc, il faut pas y lire beaucoup plus que ça.
Ça rappelle un petit peu le Royaume-Uni et le Brexit.
Absolument, absolument, tout à fait. Donc, il y a des questions de politique interne. Ceci dit, c'est vrai que pour revenir à votre question plus large de l'émission, c'est sûr que il y a un retrait vis-à-vis du libre-échange et il faut se poser la question pourquoi.
Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, réaction peut-être Nathalie Coutinet sur cet échec que vous souhaitez, hein, je peux le dire directement.
Enfin, c'est pas contre le libre-échange. Le libre-échange, il est largement pratiqué dans le monde et je pense pas qu'on soit dans une phase où on va revenir complètement en arrière. Maintenant, la question, c'est de progresser dans le libre-échange et on remarque de toute façon historiquement qu'à chaque fois qu'il y a des crises économiques, il y a un retour protectionniste. Hein. Ça s'est vu en 29, ça s'est vu en 74 où on a un ralentissement des échanges à chaque grande crise. Donc il y a déjà un élément et puis on a aussi quand même beaucoup de préoccupations écologiques, sociales, en termes de santé. Et effectivement, ces accords posent la question de leur compatibilité avec notamment l'accord de Paris concernant le climat. Voilà. Donc je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent et qu'on met des choses en parallèle sans forcément les relier et qu'il y a un moment donné où les citoyens peut-être s'interrogent légitimement sur le bien fondé de poursuivre cette ouverture sans cesse.
On est peut-être au cœur d'une crise de confiance aussi, hein, crise de confiance au sein de l'Union européenne, on l'a vu à plusieurs reprises, et qui est reprise. Et c'est un peu d'ailleurs les raisons que donne Paul Magnette, hein, le ministre président de la Wallonie, qui parle de nombreux traités qui ont posé problème faute d'un examen préalable attentif et que maintenant il y a une grande méfiance de la part des citoyens. Mais on n'oublie pas ce que nous a dit Philippe Martin sur ces raisons. Sébastien Jean, enfin.
Oui, je pense qu'on est dans une situation qui est très confuse et qui, à mon avis, est porteuse d'une menace lourde de paralysie sur la politique commerciale européenne. Ce qui est grave parce que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale au monde. Pendant longtemps, la politique commerciale a été la seule politique extérieure décidée au niveau et gouvernée au niveau communautaire depuis la mise en place du tarif extérieur commun, 1er janvier 1968. Donc, on a une politique commerciale qui était importante, qui a joué un grand rôle dans nos relations étrangères, avec le bassin, nos voisins, d'une façon générale, le bassin méditerranéen, notamment, l'Afrique, etc. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est au fond le détricotage des institutions européennes avec le retour de la méthode intergouvernementale au détriment de la méthode communautaire, qui est en train de toucher la politique communautaire après d'autres instruments. Et ce qu'on voit avec cet épisode de la Wallonie, qui fait, je ne sais plus, le chiffre avait circulé, mais c'est 0,7% je crois, de la population européenne qui bloque un accord potentiel. Et là, je ne parle pas vraiment en dehors des questions de tel ou tel aspect de l'accord, hein, mais simplement en termes de gouvernance, de prise de décision, on voit qu'on est dans un système qui ne marche pas, où si on continue comme ça, on ne va plus pouvoir rien faire. Comment va-t-on gérer ensuite les relations avec le Royaume-Uni, par exemple, avec qui on va devoir passer aussi un accord? Je pense que ça, on ne pourra le faire que si on accepte le fait qu'une politique communautaire qui nous concerne tous à la fois, il faut le décider au niveau européen. On a des institutions pour ça, on a un Parlement européen, et il s'agirait de reconnaître sa légitimité démocratique.
Oui,
et
en particulier, je pense que la question du Parlement européen est très importante, parce que là, ça remet en cause clairement la légitimité démocratique du Parlement européen.
Rappelons que les 28 États membres sont plutôt favorables au CETA, y compris la France, ce qui donne la comparaison avec le TTIP ou le TAFTA, pour utiliser l'acronyme français. Qui, pour le coup, il y avait beaucoup de réserves, y compris de la part des gouvernements français,
oui,
notamment Nathalie Coutinet.
Il y a des réserves quand même dans les populations. Il y a un certain nombre de députés, de parlementaires européens qui ont signé une lettre de soutien à la Wallonie. Il y a sans doute aussi un problème de déficit démocratique dans lequel ces accords se passent, puisque c'est quand même pas la transparence qui prévaut, hein, ni pour le CETA, ni pour le TAFTA. Il y a quand même
Sébastien Jean.
Non, je suis pas d'accord, parce que je trouve que ces arguments sont éculés, ils sont répétés encore et encore depuis des années. La Commission a fait énormément d'efforts. Ensuite, on nous parle de déficit démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est de voter des institutions de façon légitime, hein, de façon organisée, et ensuite de les appliquer et de se placer dans le cadre des institutions. Les institutions européennes disent que la politique commerciale est une politique communautaire. On a un Parlement européen pour ça, et je trouve quand même navrant de voir les dirigeants nous dire, si c'est important, il faut que ça soit voté, ratifié par les parlements nationaux et non pas par le Parlement européen. C'est enfin, un
moment,
déni
de
la légitimité des institutions européennes.
Le CETA n'est pas encore été voté par le Parlement. Il est question même de l'appliquer avant qu'il soit voté. Je suis d'accord avec vous sur le respect des institutions. Néanmoins, le fait que on essaye d'appliquer un accord avant qu'il soit entériné par le Parlement européen, justement, a priori, effectivement, le Parlement est plutôt d'accord, mais néanmoins, respectons à ce moment-là les procédures institutionnelles. Et puis, quant à la transparence, en tout cas sur ce qui concerne le TAFTA, je crois que tout le monde est d'accord sur une faible transparence quand même des négociations, des enjeux des négociations et des points d'accord. Pour le moment, on ne les a pas du tout, personne ne les a.
Rappelons qu'il devait être signé, je dis il devait, hein, je pense que ce ne sera plus le cas le 27 octobre prochain avec la venue de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, probablement.
Mais là, on parle du CETA, pas du
TAFTA. Je reviens sur le CETA, pardon, je reviens sur le CETA, bien sûr. Donc l'accord économique commercial global, hein, entre l'Union européenne et le Canada, le premier en plus, c'est ça qui était très important, puisque justement le TAFTA ne passe pas, et avec un texte quand même assez complexe qu'il faut clarifier. Juste encore un point, quand même sur ceux qui faisaient problème, pour en finir avec provisoirement avec cette question, il y avait quand même cette question des tribunaux d'arbitrage, avantage aux multinationales, disaient les opposants à ce traité, ce qui permettait aux multinationales de porter plainte contre un État qui refusait leurs exportations. C'est quand même un point extrêmement épineux. Leurs importations, pardon. Philippe Martin, là-dessus.
Je ne suis pas un fan des tribunaux d'arbitrage sur les investisseurs. Je crois que dans des pays tels que le Canada ou l'Union européenne, je pense qu'on peut faire confiance à nos cours de justice. Ceci dit, il y a eu là une négociation et il y a énormément de contraintes qui sont mises sur sur ces tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il est écrit, et là j'ai le chapitre 24 du CETA qui en parle. Il y a énormément de contraintes, et en particulier bien dit que on peut pas ces tribunaux ne pourront pas s'attaquer à des réglementations qui sont mises pour des questions environnementales, sanitaires, etc., etc. Donc je crois qu'on a mis énormément de garde-fous et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un tribunal indépendant. Je vois plus très bien quels sont les problèmes sur ce sujet. Et encore une fois, moi, a priori, je suis plutôt contre ces tribunaux d'arbitrage, mais là, on a mis quand même énormément de garde-fous.
Ça ne suffit pas, Nathalie Coutinet ?
C'est vrai qu'il y a eu des modifications par rapport aux premières versions, et c'est heureux, effectivement. Je rejoins le point de vue précédent, c'est-à-dire que on a, dans les pays développés, je pense, des systèmes de justice auxquels on peut se référer, et qu'il n'est pas forcément nécessaire. Alors après, il y a des garde-fous. La question, c'est toujours comment ils seront appliqués, qu'est-ce qui est reconnu comme un danger sanitaire, un danger écologique.
La fameuse question de l'harmonisation des normes.
Voilà, la question du principe de précaution. Il y a beaucoup de questions qui sont en jeu et que ça inquiète, a priori, on peut penser que c'est légitime. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément des Cassandres. On peut dire qu'on est quand même un petit peu attentif et inquiet, a priori, sur ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des améliorations, je suis d'accord avec vous.
Élargissons, justement, comme nous l'avions annoncé, à la question du libre-échange, hein, et au ralentissement qu'il faut lier sans doute au ralentissement de l'économie mondiale. Et il y a bien d'autres causes, hein, j'en ai signalé très rapidement quelques-unes. Comment l'interprétez-vous ? Est-ce que c'est quand même le signe d'un recul des échanges ? On parle, j'ai lu cette information qui m'a beaucoup frappée, de ports comme Singapour où des porte-containers sont en attente et sont même en train de rouiller alors qu'ils traversaient les mers avec de plus en plus de kilos et de tonnes. Et c'est quand même un vrai changement, cela, qu'on n'avait pas prévu, la preuve.
On l'avait pas
Sébastien
prévu.
Jean.
D'ailleurs, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a un mois, a sorti ses prévisions qu'elle fait deux fois par an de progression du commerce mondial. Et pour la 12e fois consécutive, elle les a révisées à la baisse. Depuis 6 ans, systématiquement, ils ont prévu plus que ce qui a été observé. Je remarque que dans ce débat, il y a encore un an et demi, il y avait parmi les spécialistes vraiment pas mal de polémiques, savoir dans quelle mesure est-ce que c'est conjoncturel, c'est-à-dire le trou d'air prolongé à la suite de la crise, dans quelle mesure on est face à une rupture structurelle. Et il me semble que maintenant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est structurel. C'est pas un trou d'air, c'est plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire
maintenant ? Donc ça va durer.
Ça va durer. Je crois maintenant que... pour moi, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que le commerce a vraiment décliné. En tout cas, il est trop tôt pour dire ça, même si en fait, depuis un an et demi, presque deux ans, c'est un peu ça qu'on observe dans les données. Mais il est trop tôt pour le conclure. Ce qui est clair, c'est que la tendance qu'il y avait eu avant la crise, en particulier entre en gros, le début des années 90 et 2008, d'explosion du commerce, hein, de ce développement, c'est ce qu'on appelait les chaînes de valeur internationales, hein, qui a fait presque doubler le taux d'ouverture de l'économie mondiale. Hein. La part des exportations dans le PIB au niveau mondial, c'était 18% en 93, elle est passée à 30% environ en 2008. C'était extrêmement rapide. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, ça a été une sorte de marche d'escalier, une augmentation très soudaine, voilà, c'est fini cette tendance-là. Ça ne veut pas dire que ça va qu'on va replier bagages et que tout va redevenir comme avant. Non, pour l'instant, c'est plutôt une stabilité qui se dessine et la question d'un déclin éventuel.
Vous publiez un article très intéressant, Sébastien Georges, j'y renverrai en fin d'émission sur l'interprétation par le FMI d'ailleurs de ce ralentissement qui n'est pas du tout, qui ne rejoint pas votre analyse, mais on va y revenir. Philippe Martin.
Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'en effet, c'est un ralentissement qui n'est pas conjoncturel. C'est pas un phénomène non plus de démondialisation, mais c'est un coup d'arrêt à ce qu'on avait appelé l'hypermondialisation des années 90 et 2000.
Comment on a pu se tromper à ce point alors ?
C'est que je pense qu'on a continué des tendances des années 2000. Entre-temps, il y a eu la crise de 2008-2009 qui a eu un véritable impact en termes de d'effondrement du commerce, mais on ne retrouve pas le taux de croissance du commerce après la crise. Ceci dit, le premier déterminant du commerce mondial, c'est la croissance mondiale. C'est-à-dire que y a un certain nombre de gens s'inquiètent du fait que le commerce mondial ralentisse et aurait un impact sur la croissance mondiale. Je pense qu'en fait, la relation ou l'inquiétude, c'est plutôt inverse. C'est plutôt, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance mondiale qu'il n'y a pas assez de commerce mondial. Donc il faut se poser la question, pourquoi il n'y a pas assez de croissance mondiale. Je rajouterai un point, c'est la question de la Chine. Je pense que c'est un point essentiel pour comprendre la mondialisation des années 90 et 2000, c'est-à-dire le choc chinois, en partie aussi sur la question des inégalités à l'intérieur des pays. Il y a eu des travaux qui ont montré que la concurrence des importations chinoises, c'est une des grandes explications des inégalités, de l'augmentation du chômage dans un certain nombre de régions, par exemple aux États-Unis, mais il y a même des travaux sur la France sur ce sujet. Et ce choc chinois, dans une certaine mesure, il est derrière nous. C'est-à-dire que l'entrée de la Chine dans le commerce mondial, elle a eu lieu. Et aujourd'hui, la Chine ne va pas augmenter le commerce dans le monde. Il y a un autre effet de structure qui est très important.
C'est car elle s'intéresse beaucoup à sa consommation intérieure.
Absolument. Donc c'est exactement ce à quoi je viens. C'est-à-dire que une des raisons pour laquelle l'entrée de la Chine a eu un impact en termes de mondialisation, c'est que la Chine investit énormément. C'est énormément d'industries et on est en train de passer sur un modèle de croissance qui est plus de la consommation. Or l'investissement, c'est beaucoup de biens qui sont échangés et puis plus de services et moins d'industries et les services aussi sont moins échangés. Donc ça, c'est un effet. Alors, à moins qu'on ait un effet nouveau, par exemple avec l'Inde, qui pourrait être aussi une très forte...
Dont on parle très peu, peut-être trop peu.
On pourrait avoir cet effet, mais pour le moment, en tout cas, on ne voit pas de deuxième Chine.
Nathalie Coutinet, sur ces tendances
générales. Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut effectivement relier l'évolution du commerce mondial à l'évolution de la croissance. Je suis tout à fait d'accord. J'ai aussi regardé les chiffres de l'OMC. Bon, là, le commerce, pour le moment, il continue de croître, même s'il croît modérément. Il croît en effet moins qu'on le pensait. Et d'après ce que j'ai vu, mais moi, je suis pas une spécialiste des échanges internationaux, néanmoins. Il semble que c'est surtout le ralentissement aussi des pays émergents. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés économiques fortes en Amérique latine, notamment au Brésil, et que c'est pays ont aussi ralenti leurs importations et que une part, en tout cas, du ralentissement peut être sans doute imputée. Et je suis aussi d'accord avec votre analyse sur la Chine. La Chine se tourne un petit peu plus vers son marché intérieur.
Mais en revanche, vous allez plus loin sur les conséquences environnementales et sur les préoccupations des consommateurs.
Alors après, effectivement,
ça dans ce ralentissement des échanges.
Je ne sais pas si ça joue déjà un rôle, mais je pense effectivement qu'il faut s'interroger sur poursuivre les échanges agricoles, alors qu'on parle beaucoup d'économie locale, de production locale. On sait aussi que les échanges internationaux sont responsables d'une grosse partie des productions de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose? C'est peut-être ça aussi sur lequel il faut s'interroger. Est-ce que c'est pas une bonne chose qu'en termes agricoles, par exemple, eh bien, on consomme plus de produits qui ont été cultivés près de chez nous? Dans la mesure évidemment du possible, on va pas, il y a des produits, mais
ce qui rejoint ce qui était prévu par le CETA avec beaucoup d'exportations, notamment en bovine en provenance du Canada
et de porc, etc. Quel intérêt, effectivement.
Sébastien Jean, deux questions à vous poser, peut-être sur la Chine dont a parlé Philippe Martin. Je l'ai dit, je sais pas si c'est intéressant, c'est peut-être un peu technique, mais la Chine devient une économie de marché, parce qu'elle n'avait pas vraiment ce titre-là. Et pourquoi est-ce important ? Parce qu'on ne peut plus protester peut-être contre des exportations qu'elle ferait de manière un petit peu anarchique et contre laquelle on avait des recours. On les aura plus si elle devient une économie de marché comme les autres ?
On les aura moins, en effet, et c'est une étape importante parce qu'elle
inondait les autres marchés, bien sûr.
Voilà, l'une des étapes majeures, quand même, de la mondialisation sur les 30-25 dernières années, ça a été l'entrée de la Chine dans l'OMC le 11 décembre 2001. Et au fond, quand on a négocié les conditions de cette entrée, on a reconnu que la Chine était encore une économie largement centralisée, très bien, et on a en même temps supposé qu'on était dans une perspective où elle allait rentrer dans le rang, d'une certaine façon, d'un régime peut-être plus libéral, politiquement et économiquement, et qu'elle allait se rapprocher du fonctionnement d'une économie de marché. Et du coup, on a négocié une période de 15 ans, pendant laquelle il y avait un régime dérogatoire, au fond, celui dans lequel on est. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après, alors qu'on voit très bien dans le fonctionnement de la Chine qu'ils ont beaucoup modifié et fait évoluer le fonctionnement de leur économie. Ça répond plus aux mécanismes de marché, mais on est quand même encore très loin du compte. Le cas particulièrement conflictuel en ce moment, c'est celui de l'acier, de la sidérurgie, parce que ce qui s'est passé, c'est que la Chine, au moment de la crise économique et financière 2008-2009, a relancé notamment beaucoup par le crédit et a énormément investi dans la sidérurgie. C'est-à-dire qu'au moment même où la demande mondiale dans la sidérurgie était très attendue, tonnes, l'offre, la capacité de production en Chine a explosé. Et maintenant, ça crée des problèmes de concurrence et de dumping finalement parce qu'ils veulent absolument écouler leur production, quel que soit le prix, pour les producteurs européens. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on gère ça dans un système commercial multilatéral qui a été bâti, notamment par l'Europe. Hein, l'Europe en est l'un des principaux architectes pour assurer une concurrence libre et non faussée entre économies de marché. Donc comment on fait dans un contexte où la superpuissance commerciale, parce que la Chine est maintenant la superpuissance commerciale mondiale, est une économie en partie centralisée.
Oui, gros problème. Et si ce statut d'économie de marché, on dit qu'il pourrait accroître les importations européennes en provenance de Chine de 5% environ. C'est beaucoup, 5% environ?
C'est beaucoup, c'est énorme, c'est beaucoup. Pour une relation de cette ampleur.
D'accord, donc, mais ça peut aller jusqu'à 21% alors si on...
Oui, donc ça veut dire si que c'est vraiment... Pas. Voilà, que c'est vraiment une question importante qui se pose avec l'Europe, encore une fois, qui est un des architectes du système, donc qui doit proposer de nouvelles solutions.
Commentaire là-dessus, Philippe, Martin ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Ce que ça signifie aussi, c'est qu'il faut qu'on modernise et qu'on rende plus efficaces nos outils au niveau européen. Et c'est là où c'est l'Europe puissance. Il faut qu'elle se développe en termes de protection anti-dumping. C'est clair. Je pense qu'il faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'en effet, la Chine n'est pas une économie de marché au sens où, en effet, beaucoup de prix en Chine sont des prix faussés du fait de subventions de l'État. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et ça signifie qu'il faut rendre plus efficaces nos outils,
nos instruments, de défense, hein, on peut les appeler
défense
comme ça.
Anti-dumping, ouais. Tout à fait.
Et
en particulier, il faut que ce soit très rapide. C'est-à-dire que en Europe, on met trop longtemps pour réagir à des cas de anti-dumping, plus longtemps qu'aux États-Unis. Le problème, c'est qu'entre-temps, des entreprises, des emplois ont disparu et qu'ils ne reviennent pas. Donc il faut être beaucoup plus efficace et rapide.
L'analyse du FMI... sur cette situation que vous êtes en train de décrire les uns et les autres, il l'attribue surtout à une très faible demande et à une faible demande d'investissement. C'est pas tout à fait ce que vous dites, Sébastien Jean. Je sais pas si Nathalie Coutinet veut dire un mot là-dessus, sur cet ensemble plus global.
Je ne connais pas forcément, c'est moins mon sujet de recherche, mais effectivement, je pense que la question du dumping de l'industrie chinoise, notamment de l'acier, est une question importante et que les autorités européennes s'en saisissent
aussi
mal.
Ouais.
Donc voilà, il y a un problème de quelles sont les priorités finalement d'action. Est-ce qu'il n'est pas plus important de mettre en place justement des procédures rapides, comme vous le disiez, plutôt que de se lancer dans des traités un peu confus, dont on ne voit pas bien le gain pour les uns et les autres.
Qu'en faire le CETA, si on vous entend bien, Sébastien Jean.
Donc, la raison pour laquelle je pense que cette analyse du FMI est importante, c'est justement pour comprendre la rupture à laquelle on fait face actuellement. Quand le FMI dit la demande est un facteur très important, c'est ce qu'a rappelé Philippe tout à l'heure, et c'est absolument vrai, mais c'est un peu tautologique, disons, c'est un peu facile comme réponse. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, la surprise à laquelle on fait face, ça n'est pas que, ayant une croissance du produit intérieur brut moins rapide, on ait également une croissance moins rapide du commerce, c'est que le ralentissement du commerce soit plus brutal, plus rapide que celui de la croissance. Et ça pose question pour comprendre les évolutions structurelles qui sont à l'œuvre. Ça pose question aussi même pour comprendre les évolutions politiques, parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que l'attitude des gouvernements et des entreprises, d'ailleurs, par rapport aux échanges internationaux, est en train de changer à mesure que les débouchés se rétrécissent et se ralentissent. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez de ce qui se passait ici même il y a 10 ou 15 ans, la Chine, c'était l'Eldorado. Il fallait absolument être en Chine. C'était la perspective de croissance. Hein. Maintenant, les importations chinoises se tassent, n'augmentent plus depuis un an. La priorité, c'est finalement de défendre son marché intérieur. Et là, il y a le risque de surenchère, disons, dans la protection que chaque gouvernement pourrait vouloir octroyer à ses champions. Et il faut éviter, disons, de rentrer dans un engrenage. C'est pour ça que, justement, cette question aussi du statut de la Chine est importante. Parce que la responsabilité, je pense, notamment de l'Europe, c'est d'essayer de mettre à jour le logiciel de cet ensemble de règles par lequel on gère le commerce, de se souvenir la catastrophe que ça peut être quand on se met à les gérer seulement d'un point de vue politique et conflictuel.
Ouais. Et national.
On voit quand même qu'il y a des très très grands changements dans ce que vous dites.
Ouais, oui, et national, parce que on voit bien avec le CETA et ce qui se passe sur la Wallonie qui empêche la signature, c'est que ce qui est dangereux, c'est aussi de revenir à quelque chose qui est purement intergouvernemental ou national. Or, un des atouts, je pense, quand même, de l'Union européenne, c'est que c'est une puissance commerciale au niveau mondial, et donc on doit garder cette force au niveau mondial. Donc si on le fait, si on revient à des politiques complètement nationales, on perd une grande partie de la richesse, justement, de la construction européenne.
Décrédibiliser l'Europe, Nathalie Coutinet, avec ce qui vient de se passer hier soir.
C'est sûr qu'il y a un problème institutionnel, ça c'est sûr. Alors là, pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt bien que la Wallonie exprime en tout cas et fasse jour d'un certain nombre de réticences de citoyens, de parlementaires, parce que la Wallonie est quand même pas toute seule à rejeter en tout cas une partie. C'est pas le CETA en lui-même qui est rejeté, pas entièrement. C'est quand même certains éléments qui effectivement, moi j'ai en termes de principes de précaution en termes de normes, puisque c'est ça dont il est question, hein, c'est modification ou harmonisation des normes entre finalement les États-Unis et l'Europe, parce que le Canada a des normes qui sont de toute façon très très proches des États-Unis. Donc c'est un pré-TAFTA finalement, avec tous les problèmes en termes de bœuf aux hormones, etc. Bon, qui sont finalement la face ouverte hein, de problèmes beaucoup plus longs, enfin plus profonds en termes de chimie. Je voulais juste dire un chiffre. Hein. Le coût, alors c'est une étude du Lancet qui est parue hier ou avant-hier, hein, le coût des perturbateurs endocriniens, qui sont des choses qu'on peut trouver dans l'alimentation, dans la chimie, etc. C'est 300 milliards d'euros aux États-Unis et c'est 157 milliards d'euros en Europe. Et les raisons données par le Lancet, hein, moi je ne fais que traduire ce qu'il dit. Citer une grande revue. C'est sans doute les législations plus restrictives en Europe qu'aux États-Unis. Donc on a peut-être raison, parfois, de dire attention à une libéralisation à tout craint.
Alors, juste un mot sur les États-Unis, on n'a plus le temps de le traiter, mais avez-vous le sentiment, vous aussi, que les deux candidats à l'élection présidentielle sont plutôt en recul, là aussi, sur l'ouverture des échanges? Et là encore, ça serait un sacré changement pour toute la planète, vu l'importance des États-Unis, premier importateur mondial, on le rappelle.
C'est très clair.
Sébastien Jean, très court.
C'est très clair. Pour les démocrates, il faut bien dire que ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de réserves autour des traités de libre-échange en particulier. Pour les républicains, c'est vraiment
un virage.
Et un virage très brutal, parce que ce que propose Donald Trump, c'est quelque chose qui est vraiment potentiellement très déstructurant en termes de relations commerciales.
Merci, on y reviendra certainement à l'occasion des élections. Eh bien, je vous ai demandé à chacun de venir avec un chiffre, on va voir lesquels. On commence avec vous, Nathalie Coutinet.
Alors, c'est un chiffre qu'on connaît, mais je trouve qu'il est important de le rappeler. C'est l'évasion fiscale, le coût de l'évasion fiscale en Europe. Alors, c'est un chiffre du Parlement européen, 1 000 milliards d'euros par an d'évasion fiscale en Europe.
Ça s'est pas amélioré récemment ?
Non.
Vous trouvez pas ?
Non. En tout cas, c'est les chiffres du Parlement européen qui sont moins graves ces derniers temps.
Mais vous faites bien de les rappeler. Il était temps. Philippe Martin, Sébastien Jean.
247 millions, c'est le chiffre qui a été publié la semaine dernière dans un rapport chinois sur les migrants. C'est le nombre de migrants internes en Chine, c'est-à-dire de personnes qui ont quitté leur région pour aller vivre et travailler ailleurs.
Vers la côte, en principe, souvent.
Ce qui d'ailleurs pose des problèmes parce qu'elle est gérée, cette migration en Chine, et que souvent, les gens, du coup, perdent leurs droits sociaux, à scolarisation, etc. Et c'est juste une façon de donner l'ampleur du défi immense que représente l'urbanisation de la Chine. Il y a de l'ordre de 25 millions de nouveaux urbains chaque année en Chine. Donc il y a vraiment un défi colossal avec des enjeux en termes de développement durable, d'économie, qui sont très importants.
Oui, le nombre de villes chinoises qui ont plus de 2-3 millions d'habitants,
dont on ignore le nom. 15 métropoles de plus de 10 millions d'habitants actuellement.
15 métropoles de plus de 10 millions, encore
un
chiffre.
C'est en partie lié à la mondialisation d'ailleurs. C'est l'ouverture au commerce qui en partie génère cette urbanisation féroce en Chine.
Bien sûr, votre chiffre, Philippe Martin.
6,7%, et c'est encore la Chine. Je suis désolé, on est un peu obsédé par la Chine.
C'est pas grave,
c'est
grand.
C'est le taux de croissance annuel de la Chine au troisième trimestre. C'est le troisième trimestre exactement qu'on a exactement le même chiffre. Et c'est exactement la cible de taux de croissance de la Chine. Alors du coup, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'il y a un aspect certainement dans les taux de croissance annoncés par la Chine qui sont un petit peu superficiels et certainement créés par le gouvernement chinois quand même, lui-même. Mais donc c'est un peu suspect, mais c'est quand même intéressant de voir que par rapport aux grandes inquiétudes qu'on avait à l'été dernier sur la croissance chinoise, on voit quand même une certaine stabilisation, mais les problèmes de moyen et long terme sont certainement pas réglés.
Merci Philippe Martin. À suivre Philippe Martin, Sébastien Jean, Nathalie Coutinet. On vous remercie tous les trois. Et merci bien sûr à notre petite équipe, Laetitia Coya, qui réalise l'émission comme chaque samedi, avec Jacques Hubert aujourd'hui. Et bien sûr, Laurence Genepin pour la préparation et la documentation. Venez nous retrouver sur notre site, sur Twitter et ailleurs. Nos commentaires sont les bienvenus. À samedi prochain. Très, très bonne journée à tous.